Chers auditeurs et auditrices, nous continuons la deuxième série concernant l'importance de la rédemption. Nous arrivons à l'étude numéro 37. Nous aurons deux petites méditations ou études. La première, les quatre disciplines. Et deuxièmement, le miracle de la prière. Nous venons d'examiner tous les commandements bibliques concernant le Saint-Esprit. Le premier nous ordonne d'être remplis et les trois autres nous indiquent les conditions de cette plénitude. Nous avons vu que tout se résume à un seul mot, la foi en Jésus-Christ. Cette foi, cependant, peut être entravée par notre conscience ou par notre volonté. Ces trois principes, la repentance avec confession de péché, l'obéissance et la foi, ne sont réellement qu'un seul principe. C'est la foi qui nous sauve, et non pas uniquement la repentance et l'obéissance. Pourtant, la foi, quand elle est l'œuvre du Saint-Esprit, elle est toujours accompagnée d'une véritable repentance et d'une véritable obéissance. Ces trois commandements s'accomplissent donc en un seul acte. Je répète, ces trois commandements s'accomplissent donc en un seul acte. Ce sont comme trois marches nous permettant de monter dans la présence de Dieu. Seulement, il faut les prendre d'un seul saut, c'est-à-dire par un acte de foi. Il faut croire en Jésus-Christ de tout son cœur. Ces trois principes sont donc les trois planches qui composent la table de notre vie, ou si tu préfères, la table du Seigneur. Nous allons examiner maintenant les quatre pieds de cette table. La table est plus importante que les pieds, mais sans les pieds, elle ne sert pas à grand-chose. Ce sont les quatre supports ou habitudes qui nous aident à maintenir le niveau de notre vie spirituelle. Ce sont donc quatre disciplines que tout enfant de Dieu doit cultiver avec tout son sérieux. Sans ces disciplines, notre foi est réduite à sa plus simple expression sans pouvoir jamais évoluer. Mais nourrie par cette vie de discipline, elle peut réellement s'emparer de la plénitude que Dieu nous offre en Christ. Je répète, mais nourrie par cette vie de discipline, elle peut réellement s'emparer de la plénitude que Dieu nous offre en Christ. Les quatre pieds ou supports de la vie spirituelle sont la prière, sont également la parole de Dieu, la communion fraternelle et le témoignage. Je répète, les quatre pieds ou supports de la vie spirituelle sont la prière, la parole de Dieu, la communion fraternelle et le témoignage. Ces sujets sont riches en enseignements bibliques. Pourquoi quatre? Eh bien, celui qui est faible dans l'une ou l'autre de ces quatre disciplines devient à la longue un fardeau pour ses frères et sœurs. Une table ou une chaise dont on a enlevé un pied est très instable. Ainsi en est-il du chrétien qui se décourage, qui déprime au moindre petit ennui. C'est un homme ou une femme difficile. Il faut toujours faire attention à ne pas le ou la bousculer. Il existe aussi des croyants, ils sont même nombreux, semblant tenir sur deux pieds. Il faut au moins deux autres frères ou sœurs à leur côté pour les tenir debout. Il y a aussi, hélas, des croyants si faibles qu'ils ressemblent à une table ou à une chaise avec un seul pied ou pas du tout. Il faut tout un peloton d'hommes et de femmes pour tenir cette personne et pour l'empêcher de tomber. Elle est donc un fardeau écrasant pour une église. Chers amis, une telle discipline est-elle vraiment indispensable? Pour réussir n'importe quoi dans cette vie, il faut une discipline. Et la plupart d'entre nous l'acceptent sans discuter. L'enfant, dès son plus jeune âge, dans sa famille comme à l'école, doit s'y soumettre sans quoi il est voué à l'ignorance et à la faillite sociale. La discipline est à la base de toute connaissance utile. Au lycée, l'adolescent apprend à se discipliner lui-même, à maîtriser son temps et ses facultés, sinon il n'a aucun espoir d'être reçu à l'examen. À l'université, la réussite dépend absolument de la discipline que l'étudiant a su déjà s'imposer. L'athlète, l'artisan, le peintre, le scientifique se soumettent tous à une discipline extraordinaire afin de réussir dans leurs différents domaines. Chaque métier exige donc un apprentissage. En fondant un foyer, les jeunes mariés découvrent vite la nécessité d'une discipline très poussée, sans laquelle le mariage s'écroulerait ainsi que l'éducation des enfants. Une nation indisciplinée, elle sera rapidement à la merci de celle qui est disciplinée. Toute l'histoire l'affirme, demandez au vilain moustachu il y a plus de 50 ans. Pourquoi donc, quand il s'agit des choses de Dieu, les croyants sont-ils si indisciplinés? On suppose trop souvent qu'on peut réussir la vie spirituelle malgré un certain laisser-aller. Or cela, c'est absolument faux. On s'expose follement au grand ennemi de Dieu. Si pour les choses de cette vie, la discipline est acceptée par tous les gens sérieux, et sans elle, rien de valable ne se réalise, à combien plus forte raison avons-nous besoin d'une discipline dans le domaine des choses de Dieu? Nous ne pouvons rien espérer de la vie spirituelle sans un engagement de notre être entier, de nos facultés et de nos moyens. Ne pas le reconnaître, c'est en somme manquer d'intelligence spirituelle. Au fond, pourquoi Jésus appelait-il disciples ceux qui croyaient en lui? Un disciple, c'est un homme ou une femme qui se soumet à une discipline. Tous les hommes, les femmes de Dieu, toutes les femmes de Dieu ont été très discipliné. Si tu n'as pas de discipline dans ta vie spirituelle, tu n'as pas le droit de te considérer comme un disciple du Christ. Heureux celui qui accepte la discipline de Jésus-Christ. Il ou elle ira loin. Je répète cela parce que c'est important. Un disciple, c'est un homme, une femme, qui se soumet à une discipline. Tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu furent disciplinés. Si tu n'as pas de discipline dans ta vie spirituelle, tu n'as pas le droit de te considérer comme un disciple du Christ. Heureux donc celui ou celle qui accepte la discipline de Jésus-Christ. Il ou elle ira loin. Et là, vous pouvez noter Saint Matthieu, chapitre 11, versets 29 et 30, ainsi que Saint Luc, chapitre 14, versets 25 à 33. Chers auditeurs et auditrices, la première discipline, c'est le miracle de la prière. Pourquoi prier, chers amis? Maintenant que tu as la vie éternelle, tu es en rapport immédiat avec la source de l'univers, avec Dieu lui-même. Le développement de cette intimité avec lui est contestablement la chose la plus importante de la vie, et cela pour les sept raisons suivantes. Voyons cela ensemble de plus près. Premièrement, la prière est le contact direct avec Dieu. Elle est la seule activité de l'homme le mettant face à face avec le Créateur. Toutes les autres activités s'opèrent sur le plan horizontal d'homme à homme. La prière est la seule activité verticale de l'homme. C'est le dialogue de ton âme, de ton esprit, avec celui qui t'a donné la vie. En fait, on peut dire sans exagération que nous avons été sauvés pour prier. Dieu est le soleil de notre âme et de notre esprit. Comme la fleur ne peut exister sans lumière, comme elle s'ouvre à la lumière, ainsi l'enfant de Dieu se tourne vers Dieu et prie spontanément, irrésistiblement. La prière est donc l'expérience essentielle, suprême de la vie en Christ. Toute autre activité est secondaire. La prière, c'est la vie même. Tout ce qui restera de notre vie spirituelle dans l'au-delà sera en quelque sorte notre vie de prière, autrement dit, notre connaissance réelle de Dieu. Plus elle est développée maintenant, plus nous serons riches spirituellement dans le royaume de Dieu. On peut dire ensuite ceci, ce n'est que dans la mesure où nous connaissons Dieu aujourd'hui que nous pouvons le servir non seulement ici, mais également après le retour de Christ dans le millénium. Jésus et l'apôtre Paul enseignent tous les deux que notre récompense dans le royaume de Dieu correspondra au développement de notre vie spirituelle sur la terre. Je répète, vous pouvez donc voir cela exclusivement dans votre sainte Bible. Ce n'est que dans la mesure où nous connaissons vraiment Dieu aujourd'hui, que nous pouvons le servir non seulement ici, mais également, oui, également, après le retour de Christ, ça veut dire dans le millénium. Jésus et l'apôtre Paul enseignent tous les deux que notre récompense dans le royaume de Dieu correspondra au développement de notre vie spirituelle sur la terre. La prière est donc absolument primordiale. Deuxièmement, Dieu nous ordonne de prier. La Bible contient un très grand nombre d'indications à la prière. Jésus dit qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Saint Luc chapitre 18 verset 1. Dans le jardin de Gethsémané, il dit à ses disciples avec une certaine tristesse: vous n'avez donc pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Saint Matthieu chapitre 26 versets 40 et 41. L'apôtre Paul dit: priez sans cesse dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Dieu nous ordonne donc de prier nuit et jour, et cette seule raison nous suffirait. Cependant, en voici d'autres. Troisièmement, tous les hommes de Dieu dans la Bible étaient des hommes de prière. Le récit de leur appel, de leur vision, de leur message est une étude passionnante. La découverte de leurs secrets constitue un véritable trésor. Tous les hommes, toutes les femmes semblent avoir fait encore jeune une expérience extraordinaire de Dieu. Ils avaient une intimité avec lui qui nous fait envie encore aujourd'hui. Leur foi, traduite en prière, a changé le cours de l'histoire. Lis par exemple la vie de Moïse et de Saint Paul, et puis mesure ta vie de prière avec l'expérience de ces hommes-là. Et toi, mon frère, ma sœur, pourquoi n'aurais-tu pas une expérience semblable? D'ailleurs, tous les hommes et les femmes de Dieu à travers l'histoire de l'Église étaient des hommes et des femmes de prière. Il faut absolument lire, entre autres, la vie de Hudson Taylor, de George Müller, de Charles Finney, de Studd, du Sadhu Sunder Singh, de Wesley et beaucoup d'autres. Tous étaient des hommes et des femmes de prière. Ils passaient beaucoup de temps chaque jour face à face avec Dieu. Ces hommes ont réussi pour Dieu des exploits tout à fait remarquable. Quatrièmement, le Fils de Dieu lui-même, avant même de commencer son ministère, il passa 40 jours de prière et de jeûne dans le désert. En tant qu'être humain, il avait besoin de voir clair, de consolider son message, d'affronter le diable et de le vaincre par l'Esprit Saint. De cette solitude, il est revenu rempli de l'Esprit Saint avec un message bouleversant. Au cours de ses 3 ans de ministère, il s'évadait constamment pour prier dans la solitude avant d'affronter à nouveau les foules. Si le Fils de Dieu avait tant besoin de prier, à combien plus forte raison moi, qui ne suis qu'un homme et un pécheur? Cinquièmement, c'est dans la prière que la foi entre en jeu. Jésus-Christ disait toujours « qu'il vous soit fait selon votre foi », mais la foi reste sans effet tant qu'on ne prie pas. La prière, c'est l'expression inévitable de la foi. Si je crois à la promesse de Dieu, je dois forcément la saisir, l'utiliser. Sinon, j'en fais un non-sens. À quoi bon dire que je crois à la sainte parole de Dieu si je ne mets pas Dieu à l'épreuve, si je ne demande pas l'exécution de sa promesse? Si j'ai un chèque entre les mains, il ne me suffit pas de croire simplement à sa validité. Il faut que je l'encaisse. Et la prière consiste à encaisser les promesses de Dieu. Elle se base sur la sainte parole de Dieu. La foi vient de ce que on entend, et ce que on entend vient de la parole du Christ. Romains chapitre 10, verset 17. La foi qui prend par l'Esprit Saint les promesses devient ainsi active. Mais si je ne prie pas, ma foi reste inerte. Autrement dit, si je suis incrédule, ma foi est vaine. Sixièmement, je prie, l'Esprit de Dieu agit. Oui, quand je prie, l'Esprit de Dieu agit. Il agit en réponse à ma foi. Au même instant, les esprits méchants dans les lieux célestes vont être vaincus et mis en déroute par l'autorité, non pas de moi, mais de Christ. Éphésiens, chapitre 6, versets 12 à 18. Quand je prie, toute une action est mise en marche dans le monde invisible. Je répète, quand je prie, toute une action est mise en marche dans le monde invisible. L'Esprit Saint de Dieu met en exécution la sainte parole de Dieu. Et septièmement, Dieu t'aime. Voilà donc la raison suprême de la prière. Quand on aime, on veut être avec celui ou celle qu'on aime. Sa présence, sa voix, son visage nous sont plus que nécessaires. L'amour amène l'intimité. Mais qui peut mesurer l'amour de Dieu, cet amour qui est livré en spectacle à la croix de Christ? Si nous pouvons comprendre combien Dieu désire nous avoir avec lui, dans son intimité, près de son cœur, nous comprendrons aussi la raison de la prière. Une autre question. La prière a-t-elle une forme spéciale? Qui donc, en ouvrant son cœur au bien-aimé, désire s'exprimer en paroles figées? La prière, c'est en effet le langage de l'amour. C'est la recherche de la face de Dieu par une âme assoiffée. Mais cette forme contient toute la spontanéité de la vie, toute l'infinie variation de la fertilité de l'Esprit de Dieu. On peut résumer les différents aspects bibliques de la prière comme décrit dans notre paragraphe suivant qui concerne les sept phases de la prière. Premièrement, il y a la pétition ou la demande. C'est ce que j'appelle la phase enfantine ou élémentaire de la prière. Comme un bébé ou un enfant, nous demandons à Dieu selon notre besoin et nos désirs. Nous demandons sa protection, son aide, sa solution à nos problèmes, le travail, l'argent, l'amitié, la santé et même le mariage. Nous importunons Dieu chaque jour avec ses petits soucis et Dieu répond. Comme une maman, il aime bien voir son enfant venir à tout instant l'importuner. Dieu permet que nous ayons des besoins et des difficultés afin de nous inciter à la prière pour nous attirer dans ses bras. Deuxièmement, il y a la confession du péché. Nous ne pouvons cependant aller plus loin dans la prière avant de régler nos comptes avec Dieu. nous avons à sonder notre conscience, nous mettre à nu devant sa lumière, car Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. Consultez, vérifiez la première épître de Johannes, c'est-à-dire de Jean, chapitre 1, verset 5. Jésus apprenait à ses disciples, au début de leur prière, ces paroles insignificatives, c'est-à-dire ces paroles significatives, pardonnez-moi, car c'était des paroles importantes. Il leur apprenait à dire « Que ton nom soit sanctifié ». En s'approchant de Dieu, il faut donc se placer devant la croix de Christ. Nous ne pouvons entrer dans la présence de Dieu sans l'argument du sang précieux de son Fils. Dieu écoute cet argument et une fois notre conscience purifiée, il nous assure immédiatement de son pardon paternel. Notez toujours la première épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 9. Troisièmement, nous avons l'action de grâce. Le Nouveau Testament est rempli d'exhortations à remercier Dieu. La Sainte Cène, la Sainte Communion est essentiellement une action de grâce, un acte de reconnaissance pour le sacrifice de Christ. Les premiers disciples à Jérusalem rompaient le pain dans les maisons tous les soirs, tant ils étaient conscients de ce que Christ avait fait pour eux. Le cœur de Dieu est certainement profondément blessé lorsque nous oublions de le remercier pour les bienfaits qu'il nous accorde. Quand on est vraiment découragé, la meilleure chose à faire, c'est de remercier Dieu. Il y a 1000 sujets de reconnaissance. Quand je commence à remercier Dieu, je n'arrive jamais au bout de la liste. Paul et Barnabas, souffrant et emprisonnés à Philippe, le dos lacéré et les ceps aux pieds, donc les fers aux pieds, n'ont rien trouvé de mieux à faire que de se mettre à remercier Dieu. Bientôt, ils ont chanté et loué Dieu. Nous connaissons le reste du récit. Notez Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 23 à 34. Même si le monde entier est contre nous, Dieu est pour nous et le ciel est devant nous. Pour chaque minute de souffrance, nous avons une éternité de joie. Quatrièmement, nous avons la louange. De la reconnaissance à la louange, il n'y a qu'un tout petit pas. Le chrétien spirituel victorieux, il est constamment en train de louer Dieu de tout son cœur. Dieu ne cherche pas une louange qui vienne uniquement du bout des lèvres. Oh non! Il la déteste autant que nous. Louer Dieu, voyez-vous, c'est essentiellement reconnaître la vérité concernant Dieu. C'est voir clair. Quand ma vision de Dieu est juste, je commence à comprendre combien il est grand, combien sa grâce est extraordinaire, combien merveilleux est ce Christ par lequel il a créé l'univers. Sur la croix, il nous a ouvert le cœur de Dieu. La louange, c'est tout simplement une vision claire de la réalité. Nous en sommes éblouis et émerveillés. La vérité de Dieu est tellement fantastique qu'en la reconnaissant, nous exprimons tout simplement ce que la Bible appelle la louange. La louange, c'est la floraison d'une âme qui voit Dieu et qui déborde d'amour pour lui. Cinquièmement, nous avons l'adoration. L'adoration va plus loin que la louange. C'est l'instant où notre cœur, bouleversé par la révélation de la face de Christ, nous met face contre terre à ses pieds. Voyez-vous, Dieu devient donc notre tout. Et là, c'est le moment où nous nous abandonnons à lui. Sixièmement, nous avons la communion. Notre communion, du grec, notre partage est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Notez la première épître de Jean, chapitre 1, verset 3. Cela veut dire que je partage tout avec le Père et le Fils, et cela dans une union satisfaisante avec lui. Mon âme trouve le but de son être. C'est donc le sens ultime de la prière. La Sainte Communion, la Sainte Cène, est le symbolisme parfait de cette communion. À la croix, Dieu a exprimé le don total de sa personne et maintenant, il cherche le don réciproque de ma personne. Tout ce que je suis, savoir s'abandonner totalement et sans réserve entre les mains de Dieu, ça c'est la joie la plus pure qu'un homme ou une femme puisse connaître. Son esprit nous fait partager avec lui tout ce qu'il aime et qu'il résume en une seule parole, son Fils. C'est le ciel. Être en communion avec Dieu, c'est vivre sa présence nuit et jour. Que ce soit dans la prière consciente, dans la méditation de sa sainte parole, dans le témoignage, dans le travail, dans la fatigue, à l'usine, au bureau, dans la famille et dans la rue. Dieu remplit ma pensée. J'ai bien les pieds sur la terre, évidemment. Je fais mieux que jamais mon travail. J'ai tous les sens pleinement éveillés. Mais la lumière de la face de Dieu inonde toute ma vie. Et on arrive à septièmement. Septièmement, nous avons l'intercession. Oui, ici, nous touchons au comble de la prière. Si Dieu nous veut près de son cœur, ce n'est pas uniquement pour notre bonheur, mais encore pour que nous pensions à ces millions d'êtres humains pour lesquels Christ est mort et qui sont toujours perdus dans les ténèbres. Jésus a dit une fois qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Le cœur de Dieu soupire après le salut et ce monde perdu. Dans l'intimité de Dieu, nous commençons à comprendre sa douleur. Elle pèse sur notre cœur et elle devient un fardeau angoissant. Nous commençons à pénétrer dans le mystère du calvaire. Nous souffrons avec Dieu à la pensée de ceux qui ne connaissent absolument rien de la merveilleuse bénédiction que Dieu nous a accordée. Nous commençons à prier pour eux et à intercéder pour eux. Dans l'Ancien Testament, le sacrificateur était l'homme appelé par Dieu à s'interposer entre lui et le peuple. C'est lui qui, avec le sang des sacrifices, devait prier pour les autres et obtenir leur pardon. Or, dans le Nouveau Testament, tous les croyants, tous, toi et moi, sont appelés à être sacrificateurs. Tous, nous avons le droit d'accès à la présence de Dieu. Et tous, toi et moi, nous sommes appelés à prier pour ceux du dehors. Le privilège suprême d'un être humain, c'est celui de pénétrer dans la présence de Dieu en faveur d'une âme perdue. Le bonheur suprême consiste à amener cette âme à la connaissance de Dieu. Comme dit l'apôtre Pierre, nous sommes un saint sacerdoce. Notez la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 5. Et comme dit l'apôtre Jean, nous sommes un royaume, nous sommes des sacrificateurs. Notez die Offenbarung, c'est-à-dire Apocalypse, chapitre 1, verset 6. Et n'oublions jamais qu'un enfant de Dieu peut entrer directement dans la présence intime de Dieu à tout instant par le sang de Christ. Hébreux, chapitre 10, verset 19 à 22. Chers amis, quel est le vrai sens de la prière? Dans la mesure où notre connaissance de Dieu s'approfondit, nous comprenons à quel point il désire s'occuper de nous. Jésus dit « Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela, les choses matérielles, vous seront données par-dessus. » Saint Matthieu, chapitre 6, verset 33. C'est lorsque nous cherchons premièrement la face de Dieu que notre prière vient à maturité. Nous arrivons au point de reconnaître la seule chose dont nous avons réellement besoin, la révélation de sa face. Ainsi, la prière passe au-delà du stade enfantin vers une recherche de Dieu lui-même. Elle devient une flamme d'adoration, une communion constante, un dialogue perpétuel avec Dieu. C'est une présence. C'est la rencontre de notre esprit avec son esprit, c'est-à-dire notre esprit avec son esprit saint, vous l'avez compris. Dieu désire enlever toute voile qui existe entre nous, toute distance et toute méfiance. Il veut que nous soyons vraiment unis d'un seul cœur et d'une seule âme. La prière, c'est justement le moyen dont Dieu se sert pour nous jeter dans ses mains, pour nous serrer sur son cœur. Si nous n'avions pas besoin de prier, de demander à Dieu toutes sortes de choses, la plupart, donc, peut-être, ne voudraient pas prier. Alors, je répète, si nous n'avions pas besoin de prier, de demander à Dieu toutes sortes de choses, eh bien, la plupart d'entre nous resterions très loin de lui. Mais par la nécessité de prier, d'importuner en quelque sorte Dieu à toute heure, nous trouvons que Dieu nous tire vers lui. Et cela afin de resserrer chaque fois davantage sa communion avec nous. Dans le Nouveau Testament grec, il y a plusieurs mots qu'on a traduits en français par le mot « prière ». Deux de ces mots les plus utilisés signifient à l'origine un désir et un besoin. Je répète, cela signifie un désir et un besoin. La prière est essentiellement un désir. C'est le désir d'avoir d'abord telle ou telle chose, et finalement, c'est le désir de posséder Dieu, d'avoir son intimité et d'être tout à lui. Mais lorsque ce désir devient un besoin, notre prière passe vraiment à la phase primaire, c'est-à-dire à la phase secondaire. Elle passe de la phase primaire, à la phase secondaire. Alors, elle devient un besoin impératif, une exigence, et nous ne pouvons plus accepter un non. Hein? On n'acceptera plus tellement, avec un cœur plutôt partagé, un non comme réponse. Mais nous avons absolument besoin, vraiment, on peut dire besoin, de Dieu, de la chose que nous lui avons demandée. Nous avons donc besoin que le Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous réponde. Et ce mot « besoin » est généralement traduit en français par le mot « supplication ». En effet, nous nous demandons de persévérer dans la prière et dans la supplication. Notez Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Persévérer, cela veut dire c'est aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout avec Dieu. Chers amis, avant de terminer notre étude, quelles sont les conditions de l'exaucement de la prière? Eh bien, le Nouveau Testament nous indique très clairement les conditions que Dieu attache à l'exaucement de nos prières. La condition générale, elle est la suivante. Jésus promet à plusieurs reprises que si nous demandons quelque chose en son saint nom, Dieu nous écoute et nous le donne. Par exemple, dans Saint Jean chapitre 14, versets 13 et 14, ainsi que Saint Jean chapitre 16, versets 23 à 27, notez bien cela, je répète, Saint Jean chapitre 4, versets 13 et 14, et le chapitre 16, versets 23 à 27. Mais qu'est-ce que cela veut dire, demander au nom de Jésus-Christ? On suppose trop souvent qu'il suffit de prononcer à la fin d'une prière une formule, hein, comme un mantra. Non, pas du tout. Il ne suffit pas simplement de dire à la fin d'une prière au nom de Jésus ou au nom de Christ pour qu'elle soit automatiquement exaucée. Non. Prier au nom de Jésus va réellement beaucoup, beaucoup plus loin que cela. Agir au nom de quelqu'un, c'est s'identifier en quelque sorte à cette personne. Et ça change tout. Une jeune fille, par exemple, quand elle se marie, elle porte ensuite le nom de son époux et lui est identifiée par le nom. Elle peut signer pour lui. Elle habite la même maison. Ses enfants portent également son nom. Demander au nom de Jésus-Christ, cela veut dire s'identifier totalement à Jésus-Christ, à sa pensée, à ses désirs, à son objectif et à sa volonté. C'est donc employer son Saint-Nom, sa signature, pour la simple raison que nous sommes identifiés avec lui ou à lui. Nous ne cherchons que ses intérêts, sachant néanmoins que lui ne désire que notre joie éternelle. Lorsque notre vie est un avec celle de Jésus-Christ, Dieu nous invite à l'importuner à outrance, car il désire faire la volonté de son Fils. L'Esprit de Dieu oriente nos désirs vers la volonté de Jésus et agit dans le but de la réaliser. Les trois conditions spécifiques de l'exaucement de la prière sont donc les suivantes. Dans sa prière modèle, Saint Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13, Jésus commence par énoncer trois conditions que tout disciple doit remplir pour être exaucé. Premièrement, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Cela veut dire s'approcher de Dieu avec sa conscience en règle et son péché confessé. C'est important. Deuxièmement, que ton règne vienne, que ton règne vienne. C'est là un acte de foi. Il faut croire que Dieu réalisera ce qu'il promet. Et troisièmement, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il faut donc obéir à Dieu de tout son cœur. C'est remarquable comme en si peu de mots, Jésus résume ces trois vérités. Dans Hébreux chapitre 10, verset 19 jusqu'au verset 22, Dieu nous appelle dans sa présence avec un cœur très sincère, c'est-à-dire avec un cœur entier et obéissant, avec une foi pleine et entière, et le cœur purifié de toute mauvaise conscience. Je répète, Dieu nous appelle dans sa présence. Il nous appelle pour nous, c'est à nous d'avoir un cœur sincère, c'est-à-dire un cœur entier, un cœur obéissant, et bien entendu, avec un cœur plein de foi et entier, pas partagé, pas avec des doutes. Le cœur doit être purifié de toute mauvaise conscience. Ce qui est frappant et pourtant tout à fait logique, c'est que nous y retrouvons les trois conditions exigées pour la plénitude du Saint-Esprit, c'est-à-dire la repentance, accompagnée de la confession du péché, donc une bonne conscience et une volonté soumise à celle de Dieu, la foi en Christ, une foi qui peut aller de l'avant, qui fonce. Chers frères et chères sœurs, le ciel est ouvert pour toi à la croix de Christ. Le cœur de Dieu te fut ouvert. Le cœur de Dieu t'est totalement ouvert. Qu'est-ce qui te retient donc? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller jusqu'au bout avec Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche? Quand il s'agit d'une prière collective, la parole de Dieu ajoute une condition supplémentaire. Jésus promet à ses disciples réunis l'exaucement de leur prière. Et cela à condition qu'ils s'accordent. Avez-vous entendu? Il faut s'accorder. Pas un penser cela et l'autre l'opposé. Ou être jaloux. Il faut s'accorder et qu'ils soient unis. Notez Saint Matthieu, chapitre 18, verset 19. Il faut lire cette promesse dans le contexte de tout le chapitre 18 de Saint Matthieu, où Jésus insiste sur la nécessité d'une unité réelle entre enfants de Dieu. Il est important que nous soyons totalement unis, sans l'ombre de quelque chose d'inquiétant, de pas vrai, de pas pur entre nous. L'unité absolue d'idées et de doctrines n'est guère réalisable sur cette terre, c'est vrai. Mais Jésus parle ici d'une unité de cœur et d'objectif. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné. Si vous avez un membre dans votre famille malade, si vous êtes deux ou trois qui vraiment, vraiment sont unis, comme on dit, d'un seul cœur, croyez-moi, Dieu va vous entendre. Dans cette unité, la présence de Christ se manifeste et la prière est exaucée. Il y a donc, dans un noyau de tels chrétiens, une force ultra-atomique, on peut bien le dire. C'est Dieu qui touche la terre. Il y a des chrétiens qui demandent parfois, voyons, combien de temps faut-il mettre à part pour prier ? C'est une question délicate, surtout de nos jours, où chacun est débordé par toutes sortes de choses, dont certaines totalement inutiles. Alors il y a du burn-out. Voyez-vous, le Nouveau Testament nous laisse absolument libres. Chacun doit s'entendre avec Dieu à ce sujet-là. J'ai commencé par fixer trois rendez-vous quotidiens avec Dieu, matin, midi et soir. Vous pouvez en faire autant. Car j'ai vu dans la Sainte Bible que Daniel le faisait et qu'il avait même préféré se faire jeter au lion plutôt que d'y renoncer, ne fût-ce qu'un seul mois. Notez Daniel, voilà. Notez Daniel, chapitre 6, verset 10, et vous pouvez lire jusqu'au verset 16. Alors j'ai compris quoi ? J'ai compris que si notre corps a besoin de trois repas par jour, plus ou moins, eh bien notre âme et notre esprit a tout autant besoin de trois rencontres avec Dieu par jour. Pourquoi pas ? J'ai donc décidé de donner à Dieu suffisamment de temps pour me parler, et il m'était cependant difficile de bloquer tout mon temps en trois grandes rencontres. Je prenais donc au cours de la journée une minute par-ci et une minute par-là. Il était très précieux que de pouvoir oublier le monde trois fois au cours de la journée et concentrer mes regards uniquement sur le Christ. Ces moments sont devenus chaque mois de plus en plus lumineux. Finalement, j'avais une telle communion avec Dieu, mon intimité avec lui devenait de plus en plus profonde. La prière n'a pas nécessairement besoin de paroles formulées. La prière est en partie un état d'esprit où nous sommes sans cesse en communion avec Dieu. Même inconsciemment, nous sommes avec lui, jouissant de sa présence, à la recherche de sa face. Il n'y a aucune règle dans le Nouveau Testament quant à la durée du temps qu'il faut mettre à part pour Dieu. On est tout à fait libre à ce sujet. Mais si nous sommes intelligents, et si nous aimons réellement Dieu, nous lui donnerons naturellement le plus possible. notre temps étant l'élément le plus précieux à notre disposition, nous ferons bien de l'économiser pour Dieu. Il faut beaucoup plus que l'argent, car cela a une plus grande, beaucoup plus grande valeur que l'argent. Car voyez-vous, de l'argent perdu peut tôt ou tard être récupéré, alors qu'une heure de gaspiller est à jamais perdue. Le Juif, sous l'ancienne alliance, donnait à Dieu la dîme de son argent et de tout son revenu. Le chrétien est libre quant à son argent, mais il serait absolument fou de donner à Dieu moins que le Juif. Tout ce que nous donnons à Dieu devient un trésor éternel dans son royaume. Le chrétien intelligent place tout ce qui lui appartient dans la banque du ciel pour avoir un plus grand trésor plus tard. Ce sera une réalité, même si certains d'entre vous n'y croient absolument pas. Nous n'avons qu'un nombre limité de jours et de minutes sur cette terre, que vous le voulez ou pas. Celui qui croit que nous pouvons être sur cette terre quelques centaines d'années, il se trompe lourdement. Ouvrez un peu le journal du jour et vous verrez sur les pages où il y a l'indication de ceux qui sont décédés, il y a parfois plusieurs pages. Et il y en a qui meurent déjà à la fleur de l'âge. Et ce n'est pas moi qui prétends cela. Vous pouvez vérifier si je dis des mensonges. Il va donc de soi que le temps donné à Dieu est l'investissement qui est le plus valable à la portée de l'homme et de la femme. Mon cher frère et ma chère sœur, tu es un enfant de Dieu, tu es donc libre. Dieu ne te traite pas en esclave, jamais. Il t'aime comme un vrai papa. Amen. Et chers amis, nous allons donc terminer, si vous le voulez bien, par la prière. Apprends-moi, Père, à prier pour avoir encore plus de foi dans tes promesses. Apprends-moi, Père, à prier pour que je puisse mieux me faire confiance. Apprends-moi, Père, à prier pour que je puisse tout remettre entre tes mains. Aide-moi à prier afin que je vienne vers toi comme un enfant qui oublie le passé et espère profondément la guérison que tu désires m'apporter. Aide-moi à cesser de me complaire dans mes chagrins et mes ennuis. Aide-moi à m'en débarrasser grâce à ton amour qui purge et guérit. Alors je connaîtrai par mon expérience ta plénitude et ta vie abondante. Père, apprends-moi à prier pour qu'il y ait davantage d'amour pour toi et pour mes semblables dans mon cœur. Un amour profond, compréhensif et généreux. Un amour chaleureux et véritable. Un amour qui ne recherche rien en contrepartie, mais seulement à aimer. Apprends-moi à me perdre dans l'amour, afin que je puisse me retrouver en toi. Apprends-moi, Seigneur, simplement à aimer et encore aimer. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et Dieu voulant, à demain matin, Diane debout, pour la suite de cette série. Au revoir, mes très chers amis, que le Seigneur vous bénisse, parce que lui, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, vous aime. Au revoir, à bientôt.